très bien.
Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop perdu après cette espèce de douche métaphysique, n'est-ce pas? Parce que, bon, si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas. Et on va essayer de terminer dans cette dernière demi-heure pour essayer de... pour essayer de s'enfoncer, hein? D'enfoncer le glaive. Mais est-ce que je suis sûr que vous êtes tous un petit peu, bon, sur une autre, enfin, l'impression que quoi, c'est une impression, hein, c'est sûr. Dès qu'on fait de la métaphysique, il y a quelque chose de fascinant. Pourquoi? Parce que un, on s'aperçoit qu'on n'est pas dedans. Deux, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose. Hein, il y a quelque chose. Il y a. C'est tout à fait Descartes qui dit ça. D'atour, il y a quelque chose. Mais pas plus. On est cartésien, nous. Alors, on voit bien qu'il y a quelque chose. Alors, c'est fascinant. On voit bien qu'il y a quelque chose. Mais on ne le possède pas. Voilà. Et donc, vous touchez vous-même cette espèce de grand tragique de l'humanité du XXe siècle qui est dans cet état tragique. C'est tragique. Elle a perdu le pied par rapport à ce qui fait sa propre substance et sa propre source d'énergie métaphysique, énergie. Alors du coup, on est obligé de retomber dans les énergies. Elle est perdue pied par rapport à la vérité parfaite de son existence. C'est pour ça qu'elle est obligée de tomber dans les vérités, toutes sortes de vérités. Oui, à cause de ça. Vous voyez, au fond, notre humanité est un petit peu éclatée. Elle a explosé. Ce phénomène d'explosion, bon, ben, si vous voulez bien, je crois qu'il n'est pas très difficile à percevoir. Vous voyez, en fait, vous, l'expérience, quand on essaie de toucher l'aspect tout à fait réaliste de notre perfection actuelle, elle s'inscrit dans un état d'imperfection. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose que vous ne pouvez pas ne pas toucher, quoi, concrètement, faut le dire. Bon, alors maintenant, les mots, je suis tout à fait d'accord que les mots, hein, energeia, entelekeia, ousia, dagia, bon. Vous dites, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je dis, non, mais c'est pas... Mais n'empêche que on saisit qu'il y a quelque chose. Là, on voit qu'il y a quelque chose. On est vraiment... C'est ça que je suis content de faire cette année, parce que on s'aperçoit qu'on est vraiment dans le même état que Heidegger. On sait que c'est ça, mais on n'y arrive pas. On est vraiment heideggerien, mais jusque dans les pores de notre peau, comme c'est curieux, ça. Hein? Alors, comment arriver à faire en sorte, justement, qu'on retrouve cette espèce de source existentielle, actuelle, de notre être dans la personne humaine. Voilà. Ben, tout simplement, je crois que c'est quand même assez facile de comprendre que tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne vois pas. C'est pour ça que si tu commences et tu mets tout dans l'éthique en disant qu'il faut aimer, qu'il faut que tu sois, mais si tu vois pas, qu'est-ce que c'est qu'il faut que tu sois? Moi, je suis désolé, mais si Iphigénie je l'aime, c'est parce que je la vois. Je peux pas tomber amoureux, sinon c'est imaginaire. C'est métapsychique. Vous voyez le truc? Si on fait tout se ramène à la morale, on est foutu. Ça ne veut pas dire que la morale n'a aucune signification. La morale a une signification, c'est-à-dire aimer quelqu'un a une signification, si c'est quelqu'un, je le touche tel qu'il est, dans son « je suis ». D'où la nécessité, si vous voulez, donc, de cette espèce de travail que nous faisons, qui est un travail gigantesque, parce qu'il faut qu'on transforme toute la matière d'un phénomène contemporain idéologique qui, qu'on le veuille ou non, nous habite jusqu'à la racine même de notre compréhension des choses. Nos mots sont habités par les idéologies. Donc il y a tout un travail à faire pour saisir le jugement d'existence, permettre à notre intelligence de retrouver sa respiration. Et une fois que ça se voit, ce que c'est que le fait que tu existes, alors à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que l'être? Tu essaies de rentrer dans ce est. Tu aperçois que c'est possible de comprendre le est de l'intérieur, pas seulement de l'extérieur. Si tu fais un jugement d'existence, tu saisis le est de l'extérieur. J'existe. Mais oui, j'existe. Ça, c'est le jugement d'existence. Tu saisis le est de l'extérieur. Ça, Heidegger le fait très bien. Mais de saisir, quand tu rentres dans ce que c'est que dans l'être, à l'intérieur du est du jugement d'existence, tu saisis l'osia, ça y est, tu t'aperçois que c'est compréhensible. Pas rationnellement, mais métaphysiquement. Je suis désolé, impossible de vous communiquer par des mots cette expérience contemplative d'induction. Je peux vous dire, allez dans cette direction et vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, vous allez voir qu'il y a une source de perfection dans l'ordre de l'être. Vous voyez, s'engloutir. Alors, c'est pour ça, au niveau concret, je voudrais vous donner peut-être, j'y ai pas réfléchi, mais spontanément, vous voyez, des petites applications pratiques. Hein, puisque là, c'est les modalités de l'acte. L'être, mon être en acte va avoir un mode dans mon être concret particulier. Vous voyez? Et je vous ai fait donc les cinq modalités de l'acte. Et quand je vous dis, quand on entend ou quand on comprend ou quand on réalise que il faut, c'est de l'éthique, vous voyez, il faut jamais s'appuyer sur ses impressions. Quelqu'un qui s'appuie sur ses impressions, sur ce qu'il comprend, sur son appréhension, sur ses idées, sur son opinion, sur ses impressions, sur ses inspirations, celui-là, vous voyez les cinq, n'est pas un être humain. Il n'est pas en acte. Il est dans un état de corruption. Il ne faut jamais s'appuyer sur ses impressions. Celui qui s'appuie sur ses impressions, il est sûr d'être en dehors de son je suis. Vous voyez ça? Et c'est vrai aussi sur le plan religieux, hein, entre parenthèses. Hein. Jamais s'appuyer sur ses impressions. Un homme qui s'appuie, quelqu'un, une femme qui s'appuie sur ses impressions pour agir, qui obéit à ses impressions, ses opinions, ses aspirations, on ne peut pas dire que ce soit un être en acte. Parce que vous voyez, parmi les cinq modalités de l'acte, je vous signale une chose, c'est qu'il n'y a pas le beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est important. Oh, c'est grand. À chaque fois que vous dites ça, vous êtes dans la dimension artistique, esthétique. C'est votre inspiration. C'est votre impression. Et donc, vous êtes en dehors et de ce qui est actuel, être en acte, et de ce qui est verum, contemplation, et de ce qui est extase, bien, amour, et de ce qui est épanouissement terminal du point de vue de la source de vie qui actue tout en vous, et du point de vue de la spiritualisation parfaite de la matière qui constitue votre personne. Ça, vous en êtes absolument sûr. Vous voyez pourquoi? Parce que l'inspiration va toujours se réaliser, quant à son mode, d'une manière complexe. Et c'est ce qui fait la beauté. La beauté est toujours quelque chose de complexe. Tandis que l'être en acte est un avec le bien, avec le vrai, avec le devenir substantiel, avec la source d'épanouissement terminal de l'ordre de la vie. C'est un. Aucune complexité. Il y a un. C'est extraordinaire. Parce que la beauté est toujours quelque chose qui relève du multiple, c'est la splendeur de la forme. Alors donc, première application pratique, voyez, quelqu'un qui s'appuie sur ses impressions, sur ses opinions, sur ce qu'il comprend, sur ses inspirations, il est sorti de sa personnalité propre. Alors, il est dans ce que les psychologues appellent une personnalité néo-formée. Un personnage extraordinaire, méthode extraordinaire. Premièrement, je crois que ça, si vous avez fait le jugement d'existence, je crois que vous percevez tout de suite. Hein. Pourquoi ? Parce que le jugement d'existence et l'induction de l'être en acte ne laissent en vous aucune impression. Soit la première application. Hein, on peut essayer de chercher d'autres applications que celle-ci. Ou d'autres moralités. Vous voyez, puisqu'aujourd'hui, il faut être un peu éthique. Donc, il faut être un peu éthique. Moi, vraiment, il m'a fasciné, ce professeur Lipovski, hier, cette nuit. J'en ai pas dormi. Avec cette éthique, il était extraordinaire. Vraiment, j'adore ce type. Alors, l'autre application, vous voyez, me paraît être la suivante. C'est que je vais comprendre que je suis distinct, même si je suis parfait, je ne suis pas identifié aux autres. Et les autres sont également parfaits tout en étant distincts de moi. Je suis distinct et séparé des autres. À partir du moment où je suis toujours face à l'autre, en attente, je suis en dehors de la perfection métaphysique dans l'ordre de mon je suis. Si j'attends quelque chose de l'autre, vous voyez, je l'aime, j'attends tout de lui. Je suis dans le renversement métaphysique du bien. Pourquoi ? Parce que l'amour fait que je suis bien déterminé par l'attraction de l'autre, qui est mon repos, et qui continuellement intensifie mon extase, épanouit, j'allais dire, mon être dans une unité totale. Mais si je suis en attente, vous le voyez bien, c'est que je suis en quête de l'autre, donc il détermine bien quelque chose de moi, dans le sens exactement contraire, à savoir que j'attends de lui qu'il détermine la chose à la manière que je l'attends. Donc je suis exactement dans une situation de haine métaphysique. C'est un discernement radical. Quelque chose. Est-ce que vous pigez ça ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors la revendication, du coup, l'amertume est le petit signe. Hein. Le troisième aspect qui me paraît presque évident, bon, pour moi, c'est pas immédiatement, dès que je saisis qu'il y a en moi toutes ces modalités de perfection que je saisis à l'intérieur de toutes mes potentialités, je suis capable de trouver métaphysiquement ces perfections, elles sont là, mais elles ne sont pas actuellement totalement en acte. Je répète, actuellement, toutes les perfections profondes, radicales, fondamentales et ultimes qui sont en moi, ne sont pas actuellement en acte. Il y a quelque chose qui fait que je suis tendu vers cette perfection, et en même temps, cette perfection étant enracinée en mon être, que je touche en jugement d'existence. Je suis en même temps tendu vers cette perfection, et en même temps, ces perfections sont enracinées dans mon être, que je touche dans mon jugement d'existence, substantiellement. Et donc, je suis, voyez, toujours dans cet état de potentialité, et en même temps, il y a quelque chose qui relève de l'énergie, de cette perfection métaphysique en moi. Et donc, il n'y a, je perçois tout de suite application pratique, donc l'application pratique pratiquement presque instinctive, du point de vue de mon intelligence liée à mon affectivité, à mon corps, et puis à tout devenir, à tout le phénomène de la création cosmique, presque, je vois qu'il y a quelque chose qui explique ça, et quelque chose qui origine ça, s'il y a deux. Il y a en même temps cette potentialité et en même temps cet acte. Il y a bien quelque chose qui l'explique et qui cause et qui est plus en acte que moi, je ne suis en acte, et qui explique cette perfection. Et je commence à réaliser qu'il n'est impossible que je sois à la fois en puissance et en acte. Mais concrètement, vous voyez, je ne sais pas quoi. Il ne faut surtout pas que vous essayiez de comprendre ce que je suis en train de dire avec des mots, hein. Surtout pas avec des mots, hein, je vous affirme. Et donc reprenons, pas sans les mots, hein, sans les mots. Et j'existe, mais une fois je m'engloutis dans ce fait que j'existe, de l'intérieur, il y a quelque chose de parfait en fait que j'existe. Lâchez les mots. Que dit Jésus à Marie-Madeleine, dit, elle s'accroche au mot de Jésus, elle s'accroche à ses pieds. Elle s'accroche à ses pieds. Hein? C'est de là que vient l'expression lâche-moi les baskets. C'est là que ça vient. Elle s'accroche. C'est le verbe qui s'exprime. C'est le verbe, c'est ce que j'ai dit, c'est le verbe de Dieu incréé au-delà du temps et de l'espace, créateur de tout, qui s'exprime concrètement. Il dit, lâche-moi, lâche les mots. Rentre dans le verbe de Dieu, dans la substance de mon je suis, je suis, je suis. Je ne suis pas remonté vers le Père. Je suis. C'est extraordinaire, vous voyez, que cette apparition à la résurrection, où elle rentre à l'intérieur. Un ange sacerdotal. Ça, c'est pas celui que je vous ai dit tout à l'heure. Il y en avait un qui était proche, qui était face à la tête, et l'autre qui était face aux pieds. Deux anges. À l'endroit où est le corps de Jésus ressuscité. Non, parce qu'il n'y est plus. Eh bien, il y a un ange, et elle contemple Théorène. Elle contemple ces deux anges qui sont proches, face, l'un à la tête, l'autre face aux pieds. Ordinaire. Elle contemple la contemplation de deux anges. Elle contemple, c'est sa conversant. Je la reconnais. Hein? Connaître que ce mystère est grand. Alors. Eh bien, quand vous saisissez en vous, dans le fait que vous d'exister, cette perfection, elle est là. Je ne suis pas d'accord avec Lipovski d'hier en disant ce que cette perfection, cet acte, cette énergie, cette perfection métaphysique, elle n'est pas là. Elle est dans ce qu'il faut que tu sois. Elle est là. Sinon, ça revient à dire que tu n'existes pas. Et si tu n'existes pas, il n'y a évidemment personne que tu existes. Mais ça, c'est autre chose. C'est pas à cause de ça que je dis ça. C'est pour... Je fusille pas l'hypothèse parce que... Mais je note la contradiction, parce qu'il dit que la valeur, c'est que l'homme soit face à Dieu. Et en même temps, il prend une démarche qui postule que Dieu n'existe pas. Parce que s'il n'y a pas d'être, que l'être n'a pas de valeur, c'est qu'il n'y a pas d'être en acte. Donc l'acte pur n'existe pas, donc Dieu n'existe pas. Et il dit que la valeur, c'est qu'il faut qu'on soit l'homme face à Dieu. Une contradiction absolue dans les termes. Alors, vous voyez bien qu'au niveau pratique, ici, la conséquence de cela, c'est que découvrir son je suis, en dire j'existe, mais il y a quelque chose de parfait dans le fait que j'existe. Là où je suis imparfait, c'est dans ma manière de comprendre les choses, c'est dans ma manière d'aimer les gens, c'est dans ma manière d'être un petit, pauvre, dépouillé, totalement libre, disponible, ouvert. Là où je suis pauvre, c'est dans mon corps est débile, il pue, etc. Vous voyez ? Mon âme, bon, mon âme domine pas tout. Je ne suis pas rayonnant de lumière dans toutes les dimensions de mon être, de mon existence, de ma vie. Ça ne rayonne pas de tous les côtés. Je constate ça. C'est vrai ? Donc je vois bien qu'il y a quelque chose qui est là, puis en même temps qui n'aboutit pas encore. Et pourtant, il y a cet aboutissement, il est quand même là. Cet acte, cette perfection, je m'aperçois donc que ce qui détermine, qui est la cause de cet être en puissance qui est en moi, c'est bien l'être en acte. Je suis finalisé dans une cause finale radicale. Je perçois que l'être en acte qui est en moi ne peut pas être là s'il n'y a pas quelque chose qui explique ce principe de l'être en acte et qui est plus en acte que moi je ne suis en acte. Et je ne peux pas remonter à l'infini dans l'ordre de l'être en acte, jamais. Donc j'aboutis à l'acte pur. Et il faut que je me relie à l'acte pur. C'est ça, vous voyez, l'application pratique. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond de moi, il y a quelque chose de parfait. Et que ça, c'est la voie, la porte d'entrée, cette perfection, dans la perfection absolue de l'acte pur. Et l'acte pur, c'est l'être premier. Et vous voyez bien que cette union avec l'être premier, mon créateur, je peux en faire la démonstration scientifique, métaphysiquement, irrenversable. D'ailleurs, que si vous n'êtes pas arrivé à la faire, sachez quand même que tout le monde s'honore de comprendre que cette démonstration-là est une démonstration que malheureusement, pour certains, on ne peut pas renverser. Maintenant, pour essayer d'en réaliser toutes les conséquences d'autre chose, toutes les applications. Justement, mon troisième application, c'était de dire, si je veux, de manière réaliste, être en contact actuel avec mon Créateur, il ne suffit pas de faire un acte d'adoration élémentaire. J'existe, je suis suspendu à le Créateur de Dieu, je donne ma vie. C'est trop extérieur. Ouais, l'acte d'adoration que je vous ai enseigné pendant des années, j'existe. Ah, mais oui, j'existe. Bien sûr, j'existe, mais oui, l'être. Mais ça, de ce point de vue-là, je suis suspendu à le Créateur de Dieu, du Créateur. Et du coup, je mets toute ma vie sous la même dépendance. Ça, c'est un acte d'adoration, il faut commencer comme ça. Parce que ça permet de se concentrer sur le jugement d'existence. Mais vous voyez bien que mon acte d'adoration n'est pas vraiment actuel. Ça, c'est un acte d'adoration qui est réel, mais il n'est pas parfait. Vous saisissez tout de suite, à chaque fois que vous faites un acte d'adoration de ce genre, que vous êtes éveillé quant à votre intelligence, mais que le don que vous faites pour vous mettre totalement sous la même dépendance dans l'attraction d'amour n'est jamais parfait. Vous le constatez, n'est-ce pas? Donc vous constatez aussi que donc il faut vous engloutir davantage dans le jugement d'existence, le fait que vous existez, vous rentrez dans cette perfection dans l'ordre du jugement d'existence. Vous êtes actuellement dans l'existence. Que vous retrouviez votre personne et que, retrouvant votre personne, vous êtes actué dans toutes les modalités de votre être en acte, corporellement, vitalement, dans la lumière qui active toute votre intériorité, votre diaphragme intérieur, de manière contemplative, en existence, de manière amoureuse, il y a tout autre que vous, et actuellement dans un être total, englouti, le tout englouti, totalement informé par l'acte qui est dans l'ordre de l'être. Et à ce moment-là, vous récupérez tout ce qui est en vous, en acte, pour l'introduire dans votre je suis et vous engloutir sous la dépendance. Là, vous faites un acte d'adoration naturelle qui peut avoir une touche actuelle d'énergie métaphysique. Et vous échappez au New Age. Vous échappez au Nouvel Âge. Vous échappez à cette recherche des énergies. La recherche du bien-être, c'est l'anti-être actuel. C'est l'anti-être en acte. C'est la troisième application. Vous voyez bien, la troisième application, et vous voyez bien qu'ici, tout ce qu'on appelle nouvel âge, recherche des énergies, recherche du bien-être, spirituellement, mystiquement, corporellement, etc., hein, vous voyez bien que ça, c'est vraiment l'anti-métaphysique, l'anti-personne, l'anti, et on le voit bien d'ailleurs, l'anti-corps, hein, puisqu'on se déchire les centres corporels, l'anti-cosmos, puisqu'on rentre en astral, l'anti, etc. C'est assez étonnant, cette espèce de destruction mystique de la personne humaine, et de la création, si vous voulez, et ce lien de relation consciente entre la personne humaine et tout ce qui existe. Vous voyez l'application ici, que mon jugement d'existence, qui essaye d'être dans un état d'union avec l'être premier, aille jusqu'à l'être en acte pour pouvoir échapper aux énergies métapsychiques et rentrer dans l'énergie métaphysique. Alors, évidemment, je suis d'accord que ça exige une mobilisation de tout ce qui est actué par votre existence dans toutes ces modalités. Et entraînez-vous, je veux dire par là, entraînons-nous. Au niveau pratique, entraînons-nous. Reprenez d'abord votre corps spirituel. Ce qu'il y a de parfait dans l'animation métaphysique actuelle de votre âme qui unifie totalement votre diaphane intérieur, soyons contemplatifs, faites le jugement d'existence, ouvrez les yeux, surtout ne les fermez pas, sinon l'imaginaire va dominer vos impressions, ne fermez pas les yeux. Ça. Il n'y a plus que l'autre qui compte pour vous. Et puis, vous rentrez donc dans ce qu'il y a de plus parfait, dans l'aspect ultime, point de vue de l'acte, qui transcende complètement la substance. Et une fois que vous êtes là, rassemblez tout ça dans votre « je suis », et c'est là que vous pouvez faire l'acte d'adoration. Vous voyez qu'à ce moment-là, je ne fais plus le mouvement que je vous avais fait, en disant « tiens, je me suis suspendu de la créateur de Dieu. Quand j'ai trouvé mon « je suis », je mets mon « je suis » dans l'acte pur de Dieu, de l'être premier. » Vous voyez, cette troisième application est une application, si vous voulez, un petit peu qui court-circuite, je suis d'accord, mais qui implique une certaine confiance dans l'être en acte, mais qui implique quand même, je vous le signale au passage, qu'il y a une démonstration de l'existence de l'acte pur, et que cette démonstration, eh ben, elle appartient au patrimoine de notre humanité naturelle sans la foi. Ça va ? Et donc c'est une exigence de notre liberté humaine, elle est capable de rentrer là-dedans, et si on n'y rentre pas, eh ben, c'est dommage parce qu'on se suicide métaphysiquement. Du moins on se met en danger. Donc le premier danger, je vous l'ai dit, c'est les impressions. Ici le second danger vient de l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il faut que je sois dans mon je suis. Quatrième application, vous me suivez ? Si quelqu'un qui ne comprend pas, il m'arrête. Hein. Donc, quatrième application. Je crois que la quatrième application, j'ai envie de dire que elle concerne tout ce qui regarde la matière. C'est curieux, vous voyez, quand je suis allé jusqu'à l'acte pur, quand mon je suis est remis dans l'acte pur de l'être premier, eh bien, je perçois, et je crois que vous pouvez percevoir, l'homme peut percevoir, que l'être premier, acte pur, est origine de l'existence actuelle de la matière. Et que grâce à cette perfection contemplative, amoureuse, métaphysique, de mon je suis dans le je suis de l'acte pur, je saisis pour la première fois la matière de l'intérieur. C'est une pure indétermination. Aristote dit, c'est, je m'excuse hein, pour, c'est parce qu'il faut un petit peu de temps en temps faire Aristote, parce que sinon, c'est l'être en puissance, en temps, que l'être en puissance est en puissance. J'arrive. Si je ne vais pas jusqu'à l'acte pur, je ne peux pas saisir de l'intérieur la matière parce que la matière n'est jamais en acte en tant que telle. La matière, c'est une pure indétermination. Mais ça, c'est, je vous signale, c'est un truc très important. Je vous signale une chose, c'est que c'est un truc très important pour pouvoir trouver la voie qui permet à votre corps terrestre, voyez, qui a quand même une détermination humaine, c'est un corps humain, c'est un corps d'homme, un corps de femme, un corps d'enfant, un corps vivant. Et donc si vous essayez de toucher la matière à travers votre corps, vous n'y arriverez pas, parce qu'il y a toujours une détermination. Il a, c'est un corps qui a une forme, c'est pas un corps complètement indéterminé, il a une forme, donc il est actué par sa forme. Donc il y a quelque chose qui est actuel dans le corps. Mais si je veux découvrir dans le corps l'aspect matériel, il faut que j'aille jusqu'à l'acte pur, qui abandonne complètement en moi l'être en puissance, l'être en acte. Et je suis entièrement immergé dans le « je suis » de l'acte pur. Et c'est lui qui fait que existe la matière, qui va pouvoir avoir une forme cosmique, qui va pouvoir avoir une forme minérale, qui va pouvoir avoir une forme humaine. Ça, c'est pour, ça a quelque chose de très important, je vous le signale tout simplement, mais je vais revenir dans 15 secondes là-dessus. Ça a quelque chose de très important pour savoir une des démarches de notre processus, hein, notre processus pour la découverte du corps spirituel. Eh bien, la première étape, elle est ici. Il faut découvrir l'aspect actuel de votre corps, l'aspect actuel de l'être en acte dans votre corps. À ce moment-là, vous pouvez découvrir l'état d'innocence de votre corps, le corps originel. De là, vous pouvez découvrir le corps mystique. Du corps mystique, par la grâce, vous pouvez découvrir le corps ressuscité du Christ de l'intérieur du corps. Et de là, vous êtes en face de votre propre corps spirituel. Là, je reconnais que 1, 2, 3, 4, 5, 6. À ce moment-là, la résurrection est possible pour vous. Plus tard, jusque dans le corps. Mais vous voyez bien qu'ici, il faut d'abord que vous puissiez trouver le point de vue de l'entéléchie dans le corps. Alors, je reprends. Donc, pour trouver ce processus, eh bien, vous voyez, il y a un premier moment, votre corps terrestre, qui est votre corps opaque, votre corps lourd. J'aime bien pour ça Christophe de Chavannes. Je pue. Enfin, mon corps, il pue. C'est vrai. Il suffit de voir la réaction des autres. Bon. Mon corps est terrestre. Moi aussi, pour moi, il y a quelque chose dans le corps qui ne va pas. Bon. Alors, je reviens en métaphysique. Je retrouve l'acte, mon je suis. Mon je suis, mon corps est incorporé dans le je suis. C'est le cas de dire. Je mets mon je suis dans l'acte pur du je suis de l'être premier. Et c'est lui, c'est là, je ne peux pas ne pas le voir, à condition que je sois dans le jugement d'existence. Hein, vous voyez comme c'est raide. Hein. Parce que moi, je ne peux pas voir que c'est l'acte pur qui détermine tout ce qui est non-acte. Non en acte. Or, l'être en non-acte, c'est la définition même, c'est la réalité même de la matière. La matière, c'est quelque chose qui pourtant existe, mais ce n'est pas en acte. Il n'y a aucune forme. Dès que vous voyez quelque chose de matériel, vous pouvez n'importe quoi. Ça peut être du plâtre, ça a une forme puisque c'est du plat. Ça, une fleur, ça a une forme puisque c'est une fleur. Un être humain, mais la matière a une forme puisque de l'intérieur. Voyez bien, dès que vous touchez quelque chose de matériel, il y a toujours une forme. La forme actue la matière. Vous pouvez, celui qui a trouvé un jour la matière se balader sans forme, qui vient de me trouver, il m'intéresse. Ça prouve que c'est l'acte pur. Je rencontrerai l'acte pur. C'est le seul qui puisse toucher la matière sans aucune forme. Vous voyez, ça, c'est Averroès, Lénine, matérialisme dialectique, c'est l'homme qui peut trouver la matière sans forme. C'est aberrant de dire ça. Celui qui a trouvé la matière sans forme, sans aucune détermination, qui se balade quelque part, vite, 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 venez, venez. Ça fait, vous rendez compte, c'est des millénaires qu'on cherche ce mec-là. L'antimatière, ça a une forme. Et le quark, vous savez, cette espèce de vibration terminale au-delà. Il n'y a plus de matière, mais c'est encore de la matière, parce que on s'aperçoit que c'est une vibration, il y a quelque chose qui relève de la lumière, puis en même temps, ce n'est pas de la matière. C'est ce que me disaient les physiciens de Bohr, etc. Bon, on s'aperçoit que quand la matière n'est plus matière, quand la matière, par exemple, vibration, il y a une forme. C'est là qu'on induit les champs morphogénétiques de Sheldrake, par exemple. Vous voyez ? Vous ne verrez jamais, jamais, mais là, cette fois-ci, la science physique arrive au même résultat, si vous voulez, que la philosophie du diffusiste Aristote. Et notre réalisme aussi. Bon, si je veux donc retrouver dans la lumière de la perfection qui est la sienne mon corps, il faut que je sois dans mon je suis. Et je ne peux pas avec mon je suis retrouver mon corps. Impossible. Je peux l'intégrer, m'engloutir dans le je suis de l'acte pur, et l'acte pur, lui, est origine métaphysique de la matière. Et ceci, je peux réaliser ça, actualiser ça, dans mon propre corps. Et c'est là que je découvre, humainement, pour la première fois, sans la grâce de Dieu, sans la Bible, sans la révélation, sans aucune foi, sans aucune croyance, par constatation et par expérience, pour la première fois, mon corps, ici, là, dans un moment, qui est un flash peut-être, qui peut durer 5 secondes la première fois, puis après, j'espère, au bout de quelques années, une demi-heure de suite, votre corps devient humain, actuellement. Ça, c'est fondamental, ça. Je vous signale que ça, je vous promets que ça, c'est le combat eschatologique porte là-dessus. Parce qu'une des sept têtes du dragon, vous savez, il y a une des sept têtes qui a été blessée à mort. C'est le matérialisme dialectique, si vous voulez savoir. Ça, c'est une petite parenthèse du prophète. Hein. c'est pas moi le prophète, c'est l'Apocalypse qui est prophète. C'est Dieu qui est prophète. C'est Jésus, Saint Jean est prophète. Il dit, il y a une tête de cette idéologie blessée à mort. Et puis, cette tête blessée à mort reprend vie. Le matérialisme dialectique. C'est une résurrection du matérialisme dialectique. Mais vraiment résurrection, c'est-à-dire beaucoup plus, qui n'a plus rien à voir avec le matérialisme dialectique, mais qui est multiplié par 100, si vous voulez. Or, on a vu ce qu'a fait les ravages du matérialisme dialectique. Le marxisme, si vous voulez, le marxisme n'est pas très matérialisme dialectique, c'est Lénine. Et le combat eschatologique porte là-dessus. Donc, si vous je crois qu'il sera assez difficile. Si on ne découvre pas notre corps en acte, très très difficile, avec la grâce de Dieu, cette fois-ci. Là, il faut la foi pour la suite. Avec la grâce de Dieu, ce sera très très difficile de vous trouver en face de votre corps spirituel. C'est la première étape. Alors, je répète, pour que vous puissiez le faire métaphysiquement. Vous voyez ? Il faut trouver... Regardez, si vous ne comprenez pas, comprenez simplement, dites-le par des gestes intérieurs, métaphysiquement, et dites, voilà, amour, vérité, un seul amour éternel, une seule vérité, un créé, un seul acte pur, une seule advenue continuelle, une seule lumière qui unifie tout, c'est mon je suis qui se trouve en moi, je trouve mon être en acte et mon je suis, ma personne, et là je dépose ma personne, mon je suis, dans l'acte pur, l'être premier. Réalisez-le, voyez, actuez ça. Et assister simplement, on appelle ça en sagesse, à l'origine métaphysique de la matière. Et ceci dans votre propre personne. Et là, votre corps devient humain. Vous ne pouvez pas ne pas le ressentir. Parce que le corps, ça va jaillir sur le corps. Mais de l'intérieur du corps, vous voyez, ce n'est pas la cellule. Hein? Oui. Sri Aurobindo, avec le mental des cellules, voudrait qu'on s'introduise dans la cellule pour faire exploser la matière de la cellule dans l'advenue universelle d'un monde nouveau et d'un être nouveau, corporellement parlant. Et vous voyez tout de suite, grâce à l'induction de l'acte, que ça, c'est métapsychique. C'est au niveau de la matière. Vous savez, Sri Aurobindo, il est avéroïcien, léniniste. Pour lui, la matière, c'est l'être. Eh bien, je vous affirme que là, il y a quelque chose de très, très fort. Faites-le, hein, moi, je ne peux pas le faire à votre place. Et à ce moment-là, il est possible, de là, d'un corps sain, S-A-I-N, humain, de vous engloutir dans la mémoire vital de votre corps, l'innocence divine qui est en vous. Votre corps originel. Mais ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Parce que ce corps originel, justement, alors là, il est complètement fêlé. Hein. Cette innocence divine, elle est crucifiée. Elle est brisée. Elle est là, mais elle est brisée. Et on reste en philosophie, donc je m'arrête là pour le corps. Quatrième application. Bon, cinquième application. Vous voyez que c'est tout simple ce que je fais, hein, je suis en train de reprendre les modalités de l'acte, mais du point de vue de... Bon. Je suis en train de reprendre simplement les applications en éthique, mais en une éthique qui du coup... est informé par la métaphysique, c'est-à-dire par la vérité ultime dans l'ordre de l'être. À ce moment-là, vous sentez bien que l'éthique prend une dimension différente, quoi. Oh, comment ça à se réveiller, quoi. Mais sinon, c'est l'éthique moraliste, sinon, il faut, pff, c'est écrasant. Une espèce d'éthique. C'est pour ça que ça donne d'éthique. C'est vrai, mais c'est sans rigoler. Alors, la cinquième application, je crois que la cinquième application, bon, elle va relever de quelque chose qui implique l'ensemble de la création. Donc l'ensemble de la création, l'ensemble de l'univers plus exactement. Vous comprenez bien qu'à partir du moment où votre corps, de l'intérieur, vous saisissez par expérience, hein, je dis bien par expérience concrète, pas une impression, une expérience indéracinable, concrète, et si vous la faites, vous verrez que vous voyez en la faisant que celui qui ne l'a pas fait, et que vous, le fait que vous n'ayez pas encore fait, ça vous a quand même fait perdre beaucoup de temps. Mais en tout cas, à partir du moment où là, vous réalisez qu'une des choses que vous pouvez toucher de manière assez concrète, c'est qu'il y a quelque chose d'actuel dans l'aspect matériel de votre corps. Et que finalement, tout ça, c'est grâce à votre esprit humain que vous pouvez réaliser cette unité entre la matière et le corps en vous. Et vous réalisez, Cette fois-ci, c'est une vision de sagesse, je suis tout à fait d'accord. C'est une vision de sagesse philosophique, hein? C'est une vision de sagesse. Vous réalisez que vous êtes le seul être actuellement où se réalise la rencontre dans l'unité de l'esprit et de la matière. Et là, vous réalisez votre vocation, votre prédestination, si vous préférez, votre élection. Oui, parce que les anges n'ont pas de matière, vous voyez. L'ange n'est pas lié à la matière, l'esprit pur. L'animal n'est pas lié à la matière, le cosmos n'est pas lié à l'esprit, pardon. Et donc c'est là que vous saisissez ce qu'est l'homme, ce qu'est la femme, ce qu'est l'enfant de l'homme, le fils de l'homme. Et donc vous mettez votre attention, votre centre de gravité sur cette conjonction qu'il y a entre l'esprit et la matière. Et c'est vous qui en êtes le vecteur, la pointe, le réceptacle, le centre de rayonnement. Et donc, vous réalisez, dans votre « je suis » à l'intérieur du « je suis » de l'acte pur du « je suis » divin, de l'être premier, de votre créateur, vous réalisez que Dieu rassemble tout ce qui existe en acte et qui est pur esprit, tout ce qui existe en acte et qui n'est que vie, tout ce qui est divin acte et qui n'est que matière. Vous réalisez que c'est ça. Vous voyez, et je reviens finalement, c'est une manière de revenir à ce fait, que je boucle la boucle de ce que je vous disais en premier, c'est que je ne peux plus m'appuyer sur ce que je vis, je ne peux plus m'appuyer sur mes impressions, je ne peux plus m'appuyer sur mes attentes, je ne peux plus m'appuyer sur mes opinions, je ne peux plus m'appuyer sur ce que je comprends. Je ne peux m'appuyer que sur l'aspect très matériel de mon être en acte, et l'aspect purement spirituel contemplatif de mon être en âme. Et c'est la conjonction des deux qui permet à l'amour de l'acte pur de se réaliser dans le monde. Et c'est ça, l'identité, si vous voulez, le nom, enfin, je ne sais pas comment est-ce qu'on va dire, de l'être en acte qu'on appelle l'homme. Et qui est, j'allais dire, celui qui nomme toute chose, métaphysiquement. Vous comprenez que les mots n'ont plus aucune force. Et ce qui nomme toute chose, c'est cette relation, vous voyez bien, en vous, qui fait que vous êtes le réceptacle de tout acte dans le monde et de toute matière dans le monde. Ceci, vous voyez, c'est quelque chose qui réconcilie Aristote et Plotin. Alors vous me direz, Aristote et Plotin, je ne connais pas. Bon, c'est ce qui réconcilie. C'est ce qui nous réconcilie. Alors maintenant, je termine, allez, avec un petit truc sur la résurrection. C'est ce qui explique pourquoi, je termine là-dessus, parce qu'il ne me reste plus que 5 minutes, même pas. C'est ce qui explique pourquoi, dans la Révélation, je vous le signale, quand on parle de la résurrection, il y a deux mots. Egerte, il est ressuscité. Anastaste, il est ressuscité. Quand l'ange, dans le sépulcre, dit aux femmes, dit, il n'est pas ici, vous cherchez Jésus, dans un état de crucifixion. Vous cherchez Jésus dans un état, voyez, dans un mode d'être en puissance, dans un état de crucifixion. Il n'est pas dans cet état. C'est pas, il n'est pas ici. C'est, il n'est pas dans cet état. Il n'est pas dans cette excise. Il n'est pas dans cet état. Il est égerté, ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire, tout le monde? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est extraordinaire. Moi, je trouve ça génial. Et l'autre mot, Anastasia, la résurrection. Anastasis. Vous avez Egersis et Anastasis. Deux mots pour les actions. Vous verrez tout, dans tous vos textes, vous verrez qu'il n'y a qu'un seul mot en français. Hein. C'est emmerdant. C'est extraordinaire. Comment les traductions qu'on a mises en français, c'est l'enterrement de première classe du mystère de la résurrection dans sa proclamation dans l'Évangile. Enterrement de première classe. On confond ce qui est actuel dans la résurrection, ce qui est substantiel et ce qui est actuel. Normal. C'est traduit par les Normands. T'as bien oui, t'es bête, non, car ici, on parle rien, tu es là, quoi. Tata, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est actuel. Égarté, il est ressuscité. Vous voyez bien que quand on dit il est ressuscité, égarté, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut essayer de comprendre, ça, cette fois-ci, on est sur le plan de la foi, vous voyez, ça fait exploser. Ça fait exploser la sagesse naturelle dont je viens de vous parler. Puisque les cinq applications que je viens de vous dire se réalisent actuellement, parfaitement, absolument, vitalement, dans un état de perfection qui dépasse totalement toute puissance de la nature. Et toute puissance, c'est ça, éclaircisse. Dieu peut faire ça dans un seul acte. Et voyez bien, Égarsis, c'est que Jésus dans son corps, pour prendre par exemple que le corps de Jésus est là, hein, tu vois ça? Mais ce que dit le messager là, enfin, il dit, il n'est pas dans un état de puissance, de crucifixion, il est égardé et ressuscité. Ben, ça veut dire que il est actuellement, matériellement parlant, partout où il y a de la matière. Il est actuellement, matériellement, partout où il y a du temps. Il est actuellement, non, partout où il y a de l'espace. Il est actuellement, participation à l'omniprésence, on dit en théologie. Il est substantiellement l'homoousios, la métasubstance de tout ce qui est substantiel dans l'existence de la création de l'univers. La signification substantielle, l'essentiel, des choses, vous voyez, a changé avec l'instant de la résurrection. Et Anastasie, au fond, c'est l'aspect, au fond, vous voyez, l'enracinement. Jésus ressuscite d'entre les morts, c'est-à-dire il s'enracine dans tout ce qui existe et qui est créé. Mais corporellement, vitalement, amoureusement, lumineusement et métaphysiquement, c'est-à-dire ça existe vraiment, c'est réel. Les cinq. Ça, c'est ça que ça veut dire, égarté. Vous voyez comme c'est lié à la substance, comme c'est lié à ce qui structure maintenant notre tout ce qui existe. Ça, c'est la foi, cette fois-ci, vous voyez bien, je sors de la métaphysique, hein, dans ces derniers mots-là. Il structure métaphysiquement, métaphysiquement, c'est pour ça qu'on dit surnaturellement. Il structure de l'intérieur tout ce qui existe en le recréant. En le reformant, en le réactualisant, en le revivifiant, en le etc. Mais Anastasis, c'est tout à fait différent. Anastasis, c'est que son corps humain, parce que si tu comprends que s'il y avait uniquement Égarsis, résurrection, si c'était que ça la résurrection, bah, c'est pas plus que Bouddha finalement. Ben parce que Bouddha, c'est ça. Bouddha, c'est ça. Il est partout, dans le tout. Hop, on retourne dans l'ontologisme de Malebranche, de Leibniz, etc. Ou dans le New Age, je comprends pas, il y en a d'autres. Voilà. Alors, et c'était terrible, c'est incroyable, ça, cette espèce d'unité vitale, actuelle, informelle, anatmanique, etc. Qui fait disparaître toutes les racines. Ça m'a dit sa racine. C'est extraordinaire. Mais la résurrection, c'est pas que ça. C'est pour ça qu'il dit, ne me touche pas. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Et il y a l'anastasis, qui est le mot qu'on emploie après, qui sont en Galilée. L'anastasis, qui est employé par les actes des apôtres. Anastasis. 153 fois le nom dans l'évangile. Anastasis. ceux qui ne savent pas lire, 153. C'est-à-dire, c'est 153 fois qu'il y a le nom de Yod, He, Vav, He dans la Genèse. C'est 153 poissons que Jésus ressuscité pêche le jour de la résurrection, dernière apparition. C'est 153 psaumes qu'il y a dans la Torah, dans la Révélation. 150 dans l'Ancien Testament, 3 dans le Nouveau Testament. C'est pour ça qu'il faut connaître son Magnificat, son Benedictus. 153 fois Anastasis. C'est-à-dire la présence du nom de Dieu qui transcende la création dans le livre de la Genèse. Anastasis. L'anastasis, c'est que tu passes, comme dit saint Augustin, de la présence universelle de Dieu, 5, en acte, à la très sainte Trinité, qui dépasse le point de vue de l'être en acte, totalement, qui fait exploser tout ce qui est en acte, pour rentrer dans quelque chose qui dépasse totalement l'être en acte, l'acte pur, et rentrer dans ce qui structure personnellement l'unité de l'être en acte, qui est acte pur et A, dans un amour subsistant, responsable, incréable. Et le corps de Jésus vient rentrer dans les processions incréées de la très sainte Trinité. C'est-à-dire qu'il fait exploser tout ce qu'il fait. En même temps, il fait durer éternellement tout ce qui existe dans la création, l'exercice, et en même temps, donc ça subsistera à jamais, et en même temps, il fait exploser l'être en acte pour s'introduire lui-même et introduire tout ce qui existe dans les processions incréées trinitaires, la très sainte Trinité. C'est trois personnes. Anastasis, c'est d'une puissance. Pour ça, si un jour vous avez une petite fille, appelez-la Anastasia en mon honneur. Eh oui. Eh oui, parce que, vous voyez, ici, je trouve ça très très fort. Vous comprenez bien que ici, si nous n'avons pas, c'est là que j'aime parler de ça aujourd'hui, parce que si nous n'avons pas fait l'induction de la substance. Comment allons-nous comprendre le mystère de l'incarnation? Le Verbe s'est incarné. Le Verbe s'est fait chair. C'est-à-dire que la nature humaine subsiste substantiellement dans le Verbe de Dieu. Si je n'ai pas fait l'induction de l'ousia, Cato, pizzeria, c'est bon. Je la vois, puis c'est tout. Je ne comprends rien, je la vois. Imbécile, tu n'as pas le droit! Et si je n'ai pas fait l'induction de l'être en acte, si je n'ai pas découvert l'énergéia, compte, là, réellement, pas parce que pas les mots, hein, j'ose pas les mots. Alors, comment est-ce que je vais comprendre le mystère de la résurrection? Impossible. Pourquoi? Et on ne doit pas faire, c'est le Concile Vatican I, hein, on ne doit pas faire l'économie de la métaphysique. Celui qui fait l'économie de la métaphysique tombe dans une hérésie condamnée par la succession apostolique qu'on appelle le fidéisme. Vous voyez, le fidéisme, oh, tout ça c'est bien compliqué, moi j'ai la foi, je ne cherche pas à comprendre. C'est une hérésie. C'est hérétique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas pénétrer par la foi, si vous dites ça. Bon, vous serez sauvés quand même, ne vous inquiétez pas, mais, parce que bon Dieu est bon. Mais, si vous êtes dans le corps mystique apostolique de l'Église, vous ne pouvez pas, c'est pas possible, les esprits vous empêchent de continuer dans cette voie. Et ici, là, vous voyez, quand c'est pour ça que je me casse les bonbons et essayer de vous faire de la métaphysique. Bon, parce que je pourrais rester dans ma grotte tranquille, hein. Parce que si c'était le fidéisme, je resterais dans ma grotte, hein. J'irais pas me fatiguer à venir ici, hein. Alors, l'être en acte, comprenez bien, si ce n'est pas la métaphysique de l'être en acte, comment vais-je faire la différence entre l'énergeia, entre l'exercice et l'anastasis? Je vais participer, au fond, à l'enterrement de première classe, la proclamation formelle et substantielle de la résurrection dans la révélation. Hein? Ce qu'on essaie de faire cette année, le dimanche. Hein? On respecte les mots de la révélation. Sinon, on sera le plus minable dans le royaume des cieux. C'est Jésus qui l'a dit. Donc ces mots-là ont une importance tout à fait extraordinaire. Mais simplement, donc je reprends. Lorsque Jésus s'incarne, le Verbe s'incarne, on voit que la nature humaine vient subsister substantiellement dans une seule personne, celui du Verbe. Vous voyez bien que c'est grâce à l'induction de l'ousia que je peux le formuler et saisir concrètement, de manière contemplative, qu'est-ce que ça représente le mystère de l'incarnation. Pour présider à ce mystère de l'incarnation, je vous signale et je vous rappelle une chose qui me frappe beaucoup depuis un an, je n'avais pas vu avant, donc peut-être que vous l'aviez vu, mais pas moi, que pour, c'est le « Je vous salue Marie » de l'ange Gabriel qui préside au mystère de l'incarnation. « Je vous salue Marie, le Seigneur est avec toi, etc. » Le Verbe qui est présent en toute création s'associe à la chair du Fils de l'homme. Donc quand on va jusqu'au bout de l'incarnation, on va sur exercice. Et pour la résurrection, le premier mot que Jésus dit dans sa première apparition, c'est à des femmes, il y en a plusieurs, qu'est-ce qu'il dit ? Je vous salue. La deuxième apparition, c'est à une femme, c'est Marie, Marie-Madeleine. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il dit Marie. La première fois et la seule fois dans toute l'Écriture où on voit le Messie prononcer le nom de Marie. Et les fois suivantes, à chaque fois que c'est des apôtres, le Seigneur, la paix. Il faudrait le prendre en hébreu parce qu'en hébreu c'est beaucoup plus aveuglant, n'est-ce pas? Mais c'est en grec que c'est révélé, mais c'est pareil. Donc, ce que disait l'ange Gabriel à Marie pour le mystère de l'incarnation, si on va jusqu'au bout, c'était qu'une prophétie seulement. Ce n'était qu'une prophétie qui s'est réalisée avec la résurrection. Et c'est prophétiser ce que Jésus dit, non pas avec des mots, mais en acte, dans le corps de Marie, parce qu'il dit « Je vous salue Marie, Seigneur. » Et ça, c'est Anastasie. Et c'est pour ça que Marie ira jusqu'à l'Assomption. C'est-à-dire que ce corps échappera à l'omniprésence, ira plus loin encore que la participation de l'omniprésence dans notre univers quand elle ressuscite le jour de l'Assomption et elle rentre dans les processions de la très sainte Trinité corporellement. Vous voyez ce « Je vous salue Marie » là, quand nous disons « Je vous salue Marie », il faut comprendre ce que c'est, ce que Jésus ressuscité d'entre les morts, Verbe aspirant l'Esprit Saint dans sa chair, dans sa matière corps personnel, acte dans le corps, l'âme, l'esprit, la grâce, la plénitude de la femme remplie de gloire. Et ça, c'est nous qui devons le dire, et le disant, vous voyez, on attire le temps dans l'éternité, l'éternité dans le temps. Et donc vous passez avec ce deuxième « Je vous salue Marie », quand il va jusqu'au bout, vous allez à l'anastasis. C'est pour ça qu'il y a ces deux mots. Vous voyez bien que cet Anastasis, qui est du côté de Marie, qui est de Jésus, de l'Immaculée Conception dans la gloire, c'est du côté de l'être en acte. Si je n'ai pas vu ce que c'est que l'être en acte, comment mon intelligence pourra-t-elle contempler concrètement, je dis bien concrètement, corporellement, vitalement, actuellement, réellement, absolument, le mystère de la résurrection? Et c'est pour ça que je ne vais pas saisir ce que c'est que le mystère de la royauté de Marie. L'Immaculée Conception. Je ne pourrais pas. Voilà. Donc, simplement, vous voyez, il faudrait que nous disions là, ici, ce « Je vous salue Marie » pour terminer. Après, on dira le rosaire, le mystère de Dieu. Pour comprendre ça, bon, que on va demander au fond au Saint-Esprit qu'à partir d'aujourd'hui, si c'est possible, que nos horizons se remettent dans la réalité et que l'on soit vraiment actué. Voilà. On va demander ça à l'Immaculée de manière à ce que l'anastasie, la résurrection, soit fulgurante, que soit corporelle, que ce soit vitale, qu'elle soit aussi dans la grâce, dans la gloire, dans l'amour et dans la lumière.